Il y a des avis divers. Les hommes ont demandé de préciser dans ce cours les transcendentaux. Et puis les autres ont demandé qu'on continue sur la vérité. Alors, solution, jugement de Salomon, on continue sur la vérité et la semaine prochaine, je ne dis pas l'année prochaine, la semaine prochaine, on fera un cours particulier pour ceux qui veulent sur les transcendentaux. Pour que tous ceux qui assistent au cours de la Quarta Via puissent assister, parce que c'est la clé de la Quarta Via, ça. Tandis qu'ici, il n'y a qu'un petit nombre. Vous voyez ? Vous remettrez en mémoire, et puis on regardera si le beau est un transcendantal ou pas un transcendantal. Pourquoi le beau n'est pas un transcendantal ? Je continue donc le cours de critique sur la vérité, en voyant le point de vue de la philosophie pratique, hein, parce que nous avions vu la philosophie spéculative et la vérité dans la vérité dans la philosophie spéculative. Maintenant, philosophie pratique. Dans la philosophie pratique, j'avais commencé, je crois, par la prudence. La prudence est considérée comme une sagesse pratique. La prudence elle-même implique différents jugements. Le jugement prudentiel n'est pas unique, c'est un habitus complexe, la prudence. Il y a le dernier « fait ceci », l'imperium. Il y a le choix, l'élection, puis il y a l'intention de vie. Tout ça est commandé par un premier amour. Le premier amour n'implique pas de vérité, tandis que l'intention de vie, il y a diverses intentions de vie. Regarde une fin. La fin, c'est le bien considéré comme absolu. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. L'élection, regarde les moyens. Et l'imperium, regarde l'exercice. En gros, hein, rapidement, il y a une vérité prudentielle au niveau de l'intention de vie. Il y a une vérité prudentielle au niveau de l'élection. Vous voyez, est-ce que mon choix est vrai? Quand vous avez fait votre devoir d'électeur, est-ce que votre choix est vrai? Et vous pouvez vous dire aussi, est-ce que mon choix est bon? Ça dépendra des gens, ça. C'est très dur, curieux du reste. Parce que dans l'élection, il y a les deux. Alors, certains sont beaucoup plus sensibilisés au bon, d'autres à la vérité. Les uns diront, est-ce que mon choix est vrai? D'autres diront, est-ce que mon choix est bon? Les deux sont vrais. Je ne dis pas, les deux sont bons. Vous voyez? Ce qui montre bien que le point de vue de la vérité de l'élection est peut-être plus fondamental que la bonté. Pour qu'une élection, pour que le choix soit bon, il faut qu'il soit vrai. Alors, l'intention de vie, c'est la fin. Je dis, je choisis cette fin. Et ceci est vrai dans la mesure où la fin est adéquate au bien. Est aimé, l'amour premier qui porte sur le bien. Sur le bien comme un absolu, l'amour spirituel. Et l'intention de vie est vraie dans la mesure où la fin est vraiment adéquate au bien. Et la mesure dernière, c'est le bien. Le bien aimé. C'est l'amour. Et l'intention est vraie dans la mesure où elle est adéquate à cet amour. Je pourrais très bien choisir une fin fausse, une fin fallacieuse. Et cette fin fallacieuse, elle est fallacieuse dans la mesure où justement, elle n'est pas conforme au bien humain, au bien que j'aime, un bien humain. Par exemple, j'aime la gloire. Et je choisis comme fin la gloire. Ça arrive. La finalité de ma vie, c'est la gloire. Est-ce que cette intention de vie est vraie? Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai fait comme choix, c'est la gloire. Ou si vous aimez mieux, un degré inférieur, la fortune, l'argent. Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mammon et le Christ. Donc mettez l'argent, la richesse. Cette intention de vie est-elle vraie? Non. Elle n'est pas conforme au bien humain. Donc elle ne peut pas me donner le bonheur. Le bien humain, il est humain dans la mesure où il m'attire et il me procure le bonheur. Ça, le bien humain, c'est celui qui me procure le bonheur. Or, la gloire ne me procure pas le bonheur, l'argent et la richesse non plus. Pourquoi? Parce que ce sont des biens, ce sont des biens. La gloire est un bien, l'argent est un bien, comme la richesse. Mais ce sont des biens infra-humains. Donc des biens qui, à la place de permettre à l'homme de connaître un épanouissement plénier, n'épanouissent pas vraiment l'homme. Ce n'est pas un épanouissement humain. Donc, rétrécissent le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rétréci par ce bien. Donc, l'intention de vie n'est pas conforme au bien humain. Et donc, cette intention de vie est erroné, conformité à la mesure. Le moyen est vrai dans la mesure où il est conforme à la fin, et par la fin au bien humain. Mais il y a tout le temps une succession, c'est très curieux. Il y aura trois vérités au niveau de la prudence. Trois vérités, trois modalités de vérité, trois niveaux de vérité. Ce choix, alors, attention, attention. Quand je choisis le bien, quand je choisis le moyen, je sais que j'ai deux critères. Donc c'est plus complexe que ce que je dis. Il y a deux critères. Il y a un critère d'un moyen. Code naturel à ce que je suis. Et un moyen code naturel à la fin. Un moyen plus code naturel à ce que je suis. Un moyen plus code naturel à la fin. Parmi les moyens, il y a du plus et du moins. C'est sûr. Il y a des moyens divers. Je n'ai qu'un seul moyen. Alors vous voyez qu'il y a deux critères de choix. Ce qui sera plus que naturel à moi, donc qui semble psychologiquement parlant plus vrai, et un moyen qui, philosophiquement parlant, est plus vrai, ce qui est en connaturalité avec la fin. Et vous avez donc, à l'intérieur du choix, deux critères de vérité. Un, qui se base sur la sincérité, et l'autre, qui se base sur le point de vue de la fin. Tout choix, c'est comme ça. C'est pour ça que quand on choisit, qu'on est fatigué, quel est le critère de vérité? Ce qui me semble plus connaturel à moi. Je trouve ce moyen admirable, mais je ne peux pas. Il me dépasse. Mais je prends comme moyen la vie religieuse. C'est un moyen, la vie religieuse. Ce n'est pas une fin. La fin, c'est la contemplation. La contemplation est une fin. Ou la vie apostolique, c'est une fin. Les deux fins, contemplation et vie apostolique. Les moyens, ben, ils sont multiples. Il peut y avoir un moyen, vie religieuse. C'est un moyen qui est plus que naturel à la fin. Je peux dire la vie religieuse, oh là là, là là. Pour moi, ça ne va pas du tout. C'est pas ça qui me convient. Et c'est pas ça qui me convient. Donc, c'est un critère de convenance à un sujet, à la personne. Ça peut être très légitime dans certains cas. J'ai une toute petite santé. Je n'arriverai jamais. J'ai une toute petite santé. Alors, jauger la qualité de la santé par rapport aux moyens, oui. La santé, je retourne au sujet. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas plus prudent, étant donné ma santé, de ne pas choisir ce moyen de la vie religieuse, ce rouleau compresseur de la vie religieuse, ce rouleau compresseur de la vie commune? Il faut tous passer par là. Alors ça me broie complètement, complètement tout ce que je suis, et je n'arriverai jamais à me relever. C'est vrai, c'est un rouleau compresseur, la vie commune. Il faut avoir des vertèbres suffisamment fortes pour que le rouleau compresseur passe et que ça repousse après. Alors à ce moment-là, ça va. Mais si le rouleau compresseur est trop fort et que je suis trop faible, j'ai des cartilages d'enfant. Jeune enfant, voulez-vous. Jeune enfant. On m'a pas éduqué quand j'étais jeune. On m'a laissé faire tous mes caprices, parce qu'on avait trop peur que je me révolte ou ça ne va pas. Alors on m'a jamais, ça arrive, on m'a jamais obligé de faire un acte d'obéissance. J'ai jamais fait un acte d'obéissance dans ma jeunesse. Jamais. Alors, entrer dans la vie religieuse, l'obéissance depuis le matin jusqu'au soir, c'est impossible, J'ai d'avance. Étant donné ma constitution, je ne peux pas. Donc, je choisis consacrer Dieu dans le monde. Ce n'est pas la vie religieuse. Ce sera plus facile. Parce que j'aurai un directeur de conscience qui me comprendra. Tandis que là, j'ai un permis qui ne me comprend pas. La vie commune. C'est vrai, le directeur de conscience, on le choisit. Le permettre. On le choisit dans la mesure où on choisit d'entrer dans telle vie religieuse. On ne le choisit pas. Vous n'allez pas dire, je veux bien entrer dans la communauté Saint-Jean, mais alors il me faut tel permettre. Autrement, non. Ça prouve que vous n'avez pas la vocation. Parce que dans la vie religieuse, il y a accepté justement les autorités qu'on n'a pas choisies. Il y a un petit choix par particulier qu'on peut faire, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne choisit pas, qui nous est imposé par l'Église. Ce n'est pas un choix de communauté de base, c'est un choix qui se fait par l'Église, et l'Église se porte garant. Donc, c'est un choix qui vient du Christ et de l'Esprit Saint. Mais le problème se pose. Hein. Je prends ce choix de la vie religieuse pour y prendre n'importe quel autre choix. Je désire faire des études intellectuelles, un peu de philosophie. C'est un bien. Ça peut être une fin momentanée. J'ai 3 ans devant moi. Je prends ça comme fin. Intention de vie. Je prends les moyens. Quels sont les moyens? Aller à la Sorbonne. Ou aller autre part. Et je choisis en fonction de ma fin. Si je veux simplement passer des examens, le reste je m'en fiche. Si je veux chercher la vérité et me former à la vérité, oui, tout de suite. Donc vous voyez que le critère du choix est toujours double. Tandis que le critère de sincérité est un. Sincérité et choix. Et vérité. Le choix est vrai en fonction de 2 critères. Il est vrai d'une manière plus absolue. Il est vrai d'une manière moins absolue, plus relative à moi. Mais c'est moi qui choisis, c'est ma personne qui choisit. Donc c'est normal qu'il y ait les 2 critères. Et quelquefois, je fais comme l'âne de Buridan. C'est-à-dire j'hésite tout le temps entre les 2. Et je ne choisis jamais. Parce que je dis, ah oui, c'est très bien. Ah mais c'est trop difficile. Alors j'ai les 2. Mais c'est ça l'âne de Buridan. Il n'arrive pas à choisir parce qu'il y a 2 bottes de foin qui sont égales. Parce qu'elles sont égales, laquelle choisir? On n'arrive pas à choisir. Vous voyez, la logique. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais 2 égales. Étant donné ma situation, je louche davantage à droite. Donc je choisis la botte de foin qui est à droite. C'est pas objectif du tout, c'est tout à fait subjectif. Je louche davantage à gauche. On est tous comme ça. On est tous de droite ou de gauche. Donc, on louche. Par le fait même, il y a un élément subjectif qui empêche, qui enlève la soi-disant objectivité parfaite. Il n'y a qu'en logique qu'il y a une objectivité parfaite. Donc, il n'y a jamais une objectivité parfaite. Jamais. Heureusement, l'âne de Buridan ne se comprend qu'en logique. Mais si je suis attentif, il y a un élément subjectif qui m'incline plus dans mon choix vers ce qui m'est plus comme naturel, ou au contraire, ce qui est plus proche de la fin. C'est très intéressant à voir ça. Les critères de choix, vous voyez, qu'est-ce qu'on met tout de suite en avant? C'est tout de suite 2 personnalités différentes. Le concupiscible et l'irascible. Ceux qui ont l'irascible plus développé choisissent toujours un moyen plus difficile et plus proche de la fin. Ceux qui ont le concupiscible plus développé choisissent le moyen qui est plus proche d'eux. C'est très très curieux ça. Et c'est très intéressant à noter. Parce que c'est vrai, c'est un fait. Les vérités prudentielles existent des 2 côtés. Alors vous voyez, le critère dernier qui justifiera le critère plus de connaturalité par rapport au sujet, c'est que, prudentiellement, je connais ce qu'est ma personne éthique. Je sais que je ne suis pas très fort. Et je sais que je ne pourrai jamais arriver à une certaine force. Alors, je choisis plutôt un critère plus proche de moi. Si au contraire je sais que ma personne est assez forte, alors je choisis le critère plus difficile, l'irascible, est en cause. Mais comme c'est complexe, hein, la vérité pratique c'est très très complexe. C'est pour ça que je ne peux absolument pas juger l'extérieur. Absolument pas. Le critère dernier reste un aspect subjectif. C'est pour ça que c'est philosophie pratique. Un aspect subjectif toujours relié au bien. Donc, un subjectif permet de regarder l'objectif. Parce que dans la connaissance pratique, le subjectif est toujours premier. L'amour est toujours premier. Et la connaissance est à l'intérieur de ce grand mouvement d'amour. Il fait qu'un bien est. Parce qu'il est humain. Et pourquoi est-il humain? Parce qu'il peut me donner mon véritable bonheur. C'est-à-dire l'épanouissement en l'homme de ce qu'il y a de plus grand et de plus noble. Donc ça présuppose une conception de la personne humaine. Tout à fait d'accord. Le bonheur, c'est l'épanouissement ultime de la personne. Et dans la personne, de ce qui est le plus noble. Et un vrai bien, c'est celui qui me donne le bonheur. Donc qui permet l'épanouissement en moi de ce qui est le plus humain, de plus noble. Au niveau éthique, philosophique, c'est la même chose. L'éthique fait partie de la philosophie. Je ne peux pas séparer complètement l'éthique de la métaphysique. Impossible. Chaque fois que je progresse en métaphysique, je progresse en éthique. Chaque fois que je progresse en éthique, je progresse en métaphysique. Il y a flux-reflux. Je ne peux pas savoir vraiment ce qu'est la personne humaine sans la métaphysique. Oui. Autrement, je risquerais de rester dans un point de vue très descriptif. L'anthropologie vraie présuppose la métaphysique. L'anthropologique à court terme veut se passer de la métaphysique. Vous avez l'anthropologie psychologique, l'anthropologie éthique, l'anthropologie parfaitement humaine au niveau métaphysique impliquant l'éthique. Alors, vous voyez la même chose pour l'exercice, l'imperium. La seule différence, c'est que l'imperium, il y a un critère de temps et de lieux qui interviennent. Imperium. Il y a un critère. Il y a un critère d'obéissance qui intervient. Personne ne peut choisir pour moi. Mais quelqu'un peut me commander. Vous voyez, le côté justification de l'autorité et du commandement, c'est par l'imperium. Personne ne peut aimer pour moi. Personne ne peut avoir une intention de vie pour moi. Et personne ne peut choisir pour moi. Il y a trois choses qui restent toujours parfaitement personnelles et individuelles. Au niveau imperium, il peut y avoir quelqu'un qui va choisir, commander pour moi. Donc l'obéissance intervient. C'est pour ça que il y a trois critères différents qui interviennent. Trois éléments différents plutôt, critères. Le critère de temps, le critère de lieu, le critère de savoir si c'est moi ou si je dois demander à quelqu'un d'autre. Mais ça n'intervient pas pour les autres. Je peux évidemment dire à quelqu'un, écoutez, c'est tellement complexe, j'aime mieux que vous choisissez pour moi. En réalité, quand on dit ça, on dit, c'est tellement complexe, moi, je suis trop dedans. choisissez pour moi. C'est-à-dire, montrez-moi à titre de conseil ce qu'il faut choisir. Et je choisis derrière vous. Et c'est la personne qui choisit. Tandis que dans l'impérium, je reçois l'impérium d'un autre. C'est le propre de l'autorité. L'autorité me donne un impérium qui n'est pas le mien. Tandis qu'on ne peut pas me donner un choix qui n'est pas le mien. Un autre a pu le déterminer pour moi, mais il faut que je le choisisse. Tandis que l'impérium, un autre a déterminé pour moi et me communique un commandement, un impérium. Et je dois adhérer à cet impérium pour y coopérer. Ça se voit très très fort, ça, dans tout impérium, dans tout commandement. Commandement se réalise de façon très particulière dans l'exercice de l'impérium. Est-ce que vous voyez bien ça? Bon, alors une fois qu'on voit ça, on comprend que l'impérium est vrai quand il permet au moyen d'être efficace. L'impérium touche l'efficacité, la mise en exercice, donc l'efficacité. Donc, nous avons là un critère de vérité dans l'efficacité. Et cette efficacité, pour être vraie, implique le lieu, le temps, et implique même l'aide des autres. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté artistique
dans l'impérium?
Vous parlez d'efficacité.
À 16, il y a la morale. La morale est premièrement intentionnelle, mais la morale va, au terme, impliquer l'efficacité, par l'impérium. L'impérium, l'efficacité, n'est pas le critère de vérité. Vous voyez, je n'ai pas dit que le critère de vérité de l'intention de la vie, c'était l'efficacité. Mais ce sera des morales esthétique qui dirait ça. Mais l'impérium implique une efficacité. Je mets tout en œuvre pour que ça réussisse. Tandis qu'au contraire, l'intention est vraie sans efficacité. Le choix est vrai sans efficacité. Mais l'impérium ne peut être vrai qu'avec l'efficacité. Alors comprenons bien, quand j'obéis, ce n'est pas l'efficacité qui fait la vérité de l'obéissance. La vérité de l'obéissance, c'est parce que je reconnais que cette autorité est pour moi l'autorité. Celui qui a fait autorité, son critère de vérité, quand il me donne un ordre, c'est l'efficacité. Ça rate. Je suis dans l'exercice. L'exercice implique l'efficacité. Pas d'autre critère de l'efficacité. Oui. Et celui qui m'a ordonné a pu se tromper. Ça n'a pas d'importance, j'obéis moi. Et en tant que j'obéis, mon impérium devient vrai. Du moins, mon acte d'obéissance devient vrai. Parce qu'il est conforme à l'autorité. Tandis que si je n'obéis pas, mon critère de vérité, c'est l'efficacité. Oui. Vous voyez la différence? Le critère d'efficacité, le critère de vérité d'un acte d'obéissance, c'est d'être conforme à l'impérium de celui qui exerce autorité sur moi. C'est pour ça que l'obéissance intériorise ma vie. Tandis que si je n'obéis pas, mon critère de vérité, c'est quand même l'efficacité. Une certaine efficacité, je ne dis pas n'importe laquelle, une certaine efficacité. Et je reste, c'est ce qu'on dira spontanément. Mais mon père, vous voyez bien que c'était vrai, ça a réussi. Que dira l'autorité? Je m'en fiche pas mal de votre efficacité. Ce que je sais, c'est que vous n'avez pas obéi. Oui, c'est au fond comme ça que ça se passe. vous deviez obéir. Et on dira très fier, mais non, ça a réussi. C'est pas ça le critère de vérité. C'est que vous étiez sous l'obéissance, vous deviez obéir. Et c'est ça que vous sentiez, je crois. Ça vous gênait que de mettre comme critère d'efficacité, le point de vue de l'efficacité. Parce qu'au fond, pour nous, l'obéissance englobe toujours l'exercice. Il y a comme critère de vérité l'autorité. Et c'est vrai, quand j'obéis, mon critère de vérité, ce n'est pas du tout l'efficacité. Mais quand je fais quelque chose par moi-même, oui, je suis bien plus attentif à l'efficacité quand je pose un acte où je suis parfaitement responsable de ma décision. Oui. Bon, passons maintenant à une autre vérité. Vous voyez, c'est complexe, hein ? Si je cherche toutes les vérités qui sont prudentielles, je vois, il y en a deux. Attendez, hein ? Ouh là là ! Faisons attention. Critère de vérité de la prudence. 1, 2, 2, 5. Bon. Critère de vérité. La fin choisie. Vis-à-vis du bien. Le moyen choisi en fonction de la fin, en fonction de la personne qui choisit. Deux critères. Et l'exercice choisi, choisit-elle l'exercice en fonction de tel moyen. Tel moyen en vue de telle fin. D'où ils sont ? Moyen relié à la fin. Tel moyen. Alors, la vérité de cela est ou directement la conformité au moyen ou la conformité à l'autorité. Dans ce sens-là qu'il y en a deux. Cinq critères de vérité. Mon action est vraie si, de fait, devant obéir, étant donné l'état dans lequel se trouve ma personne, son état, il y a l'autorité auquel je dois faire attention. Et j'absorbe le point de vue. Et alors, à ce point de vue-là, l'autorité devient un critère de vérité de mon action. De mon exercice. Parce que l'action est au niveau de l'exercice. N'est-ce pas ? L'action est au niveau de l'exercice, au niveau de l'imperium. Donc il y a cinq critères de vérité au point de vue de l'acte prudentiel. Vous voyez bien ça ? Ça, c'est important. C'est pour ça que je vous demande. Si vous ne voyez pas, dites-le. Parce qu'il faut le voir. C'est une analyse de l'acte prudentiel de mon activité humaine. Mon activité humaine n'est humaine que si elle est prudentielle. Et j'ai cinq critères de vérité. Selon des moments différents.
Mais le premier fonde tous les autres ?
Oui. Le premier fonde tous les autres. Vous voyez, l'autorité. L'autorité n'est légitime que ce qu'elle est au service de l'intention de ma vie. Donc, c'est bien la conformité de la fin à mon bien qui est le dernier critère, puisque celui-là joue même sur l'autorité. L'autorité ne modifie pas mon intention de vie. L'autorité présuppose mon intention de vie. Dans la vie religieuse, c'est très net. L'autorité dans la vie religieuse est soumise à l'intention de ma vie. L'intention de ma vie qui est en la contemplation, la vie apostolique. Et l'exercice de l'autorité, l'autorité sera vraie quand justement elle met la personne humaine en relation avec sa fin, avec tel moyen à exécuter. Parce que j'aurais parfaitement le droit, vous voyez, non seulement le droit, mais le devoir, en tant que religieux, par exemple, l'autorité me commande tel moyen ou m'interdit tel moyen en fonction de la fin que je poursuis, la contemplation et la vie apostolique. L'autorité se trompe, pas infaillible. L'autorité se trompe. J'obéis. Après avoir dit à l'autorité, vous êtes bien sûr qu'il faut faire ça. Je vous dis qu'il faut faire ça. L'autorité se trompe. J'exécute. Et après avoir exécuté, parce que souvent ça rate quand c'était faux, pas tout de suite, je reviendrai ensuite, vous verrez. Croyez pas que vous vous êtes trompé là. Ça, c'est la charité fraternelle. Mais je ne le fais pas avant. Ça m'enlèverait le mérite de l'obéissance. J'avertis. Est-ce que vous êtes bien sûr? J'obéis. Puis, vous voyez, des ordres qui viennent de Rome, par exemple, quand l'autorité est lointaine. Si je dis ça, c'est parce qu'on aura des conseils à donner dans ce domaine-là, pour soi et pour les autres. Il y a deux attitudes, moi je vois très très bien. Je ne vous cite pas les cas parce que c'est trop brûlant. Mais on se trouve comme ça. Ce serait pourtant très intéressant à discuter. On se trouve devant un imperium de Rome, un ordre. Vous devez aller à tel endroit. Pour un religieux, par exemple. Ou pour tout simplement un prêtre. Vous devez vous rendre à tel endroit, à telle date, telle possible, pour telle ou telle fonction. Ça vous semble complètement aberrant. Ils n'ont pas vu. Vous laissez tous les autres se péter. Vous, en tant que sujet, vous vous taisez. Vous êtes prêt à obéir. Si l'autorité ne tient aucun compte des remarques, vous obéissez. Et après avoir obéi, vous apercevez si c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant, votre devoir fraternel, c'est-à-dire, ne croyez-vous pas que vous êtes trompé, mais pas tout de suite après, parce que les gens sont trop sensibles, trop vulnérables. L'autorité n'aime pas de s'être trompé. Donc, l'autorité n'aime pas qu'on mette le doigt sur l'erreur. Or, l'autorité est très vulnérable au moment où on commande. Donc, par charité fraternelle, on ne le fait pas tout de suite. C'est comme vous devez toujours demander aux gens de ne jamais dire à la fin d'un sermon au curé ou au prêtre prédicateur, Monsieur le curé, vous vous êtes trompé, vous avez prêché une hérésie. Ça, c'est les bonnes mères de l'Église qui font ça. Se précipiter à la sacristie, immédiatement après la messe. Il faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que quand on a prêché, on est dans un état de vulnérabilité très grand. Alors vous risquez d'entraîner une colère. Comme action de grâce, c'est plutôt gênant. Et vous avez été l'occasion de ça, par manque de prudence. Donc vous êtes coupable. Faites-le 15 jours après, après avoir invité le curé à un bon repas familial, et après quelques verres de vin, vous pouvez dire, Monsieur le curé, est-ce que c'est vrai ce que vous nous avez dit l'autre jour? Ça nous a un peu choqués. Mais pas tout de suite. Ça, c'est la charité fraternelle. La correction fraternelle se fait dans la charité fraternelle. Elle ne doit pas se faire brutalement. Parce qu'on est tous très vulnérables. Et quand on a prêché sur le moment même, on est très vulnérables. Ça, vous voyez bien ça, donc. Cinq modalités de vérité. Oui. C'est le premier, je dirais, avant l'obéissance. Oui. Quand vous n'êtes pas obligé d'obéir, quand vous n'êtes pas obligé d'obéir, quand vous êtes en dehors de l'obéissance. Oui. Quand vous exercez l'autorité, vous êtes bien obligé, hein, de poser des actes en dehors, sauf l'obéissance à Dieu. Très bien. L'obéissance des commandements de Dieu. Un père de famille doit commander. Il ne peut pas demander. Il demande conseil à son épouse. Il demande conseil à ses enfants aînés quand ils sont suffisamment grands. Autrement, il est bien obligé d'exécuter. Quel est le critère de cette exécution? C'est l'efficacité, c'est-à-dire ce qui me permet d'atteindre ma fin. L'efficacité, là, c'est d'atteindre ma fin. Puisqu'il y a le choix d'une fin, il faut quand même être efficace à obtenir cette fin. Donc c'est une efficacité à l'intérieur d'une intériorité d'amour. Oui. Non. La fin ne justifie pas les moyens, puisqu'il y a une vérité autre de la fin, autre des moyens. C'est un télescopage, ça. Et il y a une vérité de l'exécution. Oui. Mais ici, je parle d'autorité légitime. Alors, il y a tout un acte prudentiel qui consiste à voir quelles sont mes autorités légitimes. Parce que je n'ai pas le droit d'obéir à quelqu'un qui n'est pas une autorité légitime. Mon obéissance à ce moment-là devient fausse. C'est là une question très délicate. On touche des questions très délicates là-dessus. Alors, est-ce que le gouvernement est élu de telle manière qu'il est légitime, tant que je n'ai pas le critère absolu que l'élection a été faussée? Et l'élection peut être faussée de diverses façons. Si c'est vrai, on découvre que l'élection a été faussée. Elle peut être faussée de multiples manières. Puisqu'on dit que, de fait, on s'est servi des médias pour fausser l'élection. On le sait aujourd'hui, c'est des choses qui sont connues. Je me souviens, Les premières découvertes qu'on a fait ça, c'est au cinéma qu'on a fait ça. De projeter deux choses, hein. Le film et derrière le film, autre chose. Et alors, à la fin du film, on demandait, après tel ou tel, plus exactement, à la fin du film, la réclame qui avait été projetée faisait que tout le monde, dans l'air interact, se précipitait pour acheter telle chose qui avait été recommandée. Le petit esquimau. Se précipiter. Donc on sait aujourd'hui qu'on peut manipuler les gens qui n'ont pas de finalité. Or, la France, un pays comme le nôtre, ou beaucoup d'autres pays aujourd'hui, les citoyens ne sont pas finalisés. Aussi bien le libéralisme absolu que le marxisme ne finalise pas les gens. Le marxisme un peu plus. Donc on peut les manipuler. Si on les a manipulés indûment, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ce n'est pas là un excès de pouvoir qui n'est plus l'autorité? Alors, à ce moment-là, une élection est faussée. Exactement comme quand on sait qu'on fait voter les morts, qu'on fait voter des quantités de gens ou qu'on falsifie. Oui, c'est très délicat, ça. Et alors, ça, c'est le problème prudentiel. Prudentiel au niveau politique, qui est très grave.